Vatican News, le journal, il est 13h.
Journée historique au Soudan, meneur de la contestation et militaire, signent un accord sur la transition politique, une feuille de route pour les 39 mois à venir. Les Nations Unies au chevet du Cachemire, mais le Conseil de sécurité n'est pas parvenu à une décision commune. Hier, des affrontements ont eu lieu entre la police et des Cachemiris. La crise politique italienne se cristallise sur le navire humanitaire Open Arms. Amarré au large de Lampedusa, la situation se dégrade à son bord. Le ministre de l'Intérieur italien empêche les 134 migrants de débarquer, et ce, malgré l'accord de répartition proposé par l'Europe. Puis nous parlerons des reliques d'une sainte française qui pérégrine en Italie, celle de Bernadette Soubirous.
Le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. C'est une journée historique pour les 40 millions de Soudanais. Après 8 mois de manifestations et de bouleversements politiques, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation signent cet après-midi, à Khartoum, la capitale, un accord de transition. Un accord conclu début août à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine. Alors sur place, l'humeur semble être à la célébration, mais le chemin vers la démocratie promet d'être long, Adélaïde Patrignani.
Tout à fait, Marine. Vous l'avez dit, depuis hier, la capitale soudanaise voit affluer des milliers de personnes venues de tout le pays. Des dignitaires étrangers seront aussi à la cérémonie, preuve que la signature de cet accord va redonner du souffle aux relations diplomatiques du pays. Le Soudan réintégrera bientôt l'Union africaine, dont il avait été suspendu en juin dernier. Un accord qui va aussi redéfinir toutes les structures politiques internes. Le document décrit les 39 mois de transition à venir. La première étape aura lieu demain avec l'annonce de la composition du Conseil souverain, l'une des trois instances en charge de la transition. Mardi, ce Conseil souverain devra confirmer le Premier ministre désigné jeudi, Abdallah Hamdok, ancien économiste de l'ONU. Puis viendra la mise en place d'un Conseil des ministres et d'ici trois mois d'un Parlement. L'objectif étant de parvenir à des élections en 2022 et à la rédaction d'une nouvelle constitution. Cet accord historique semble équilibré, il laisse une large place au pouvoir civil, comme le réclamait la population soudanaise. Les manifestants célèbrent d'ailleurs la victoire de leur révolution, après 8 mois d'un bras de fer contre l'armée qui a fait plus de 250 morts côté civil. Mais plusieurs questions se profilent, et pas des moindres. Comment concilier les composantes de l'opposition? Qui va contrôler l'armée, démanteler des entités islamistes encore influentes? Et que va devenir l'héritage de l'ère Omar el-Béchir, resté 30 ans au pouvoir?
Merci Adélaïde, Adélaïde Patrignani. Et ironie du calendrier, c'est également aujourd'hui que débute à Khartoum le procès d'Omar el-Béchir. Le calendrier des élections vient d'être dévoilé au Niger. Premier tour de la présidentielle en même temps que les législatives le 27 décembre 2020. L'actuel président Mahamadou Issoufou a 67 ans, réélu en mars 2016 pour un deuxième et dernier quinquennat. Il a assuré qu'il ne modifierait pas la constitution pour briquer un troisième mandat. Direction le Cameroun, deux prêtres enlevés dans la région anglophone de Nord-Ouest à Koumbou. Le père Dinzi et le père Atang ont été capturés par des hommes armés. Pas de demande de rançon de la part des ravisseurs pour l'instant. Un nouvel imbroglio sur un navire humanitaire aux portes de l'Italie. Le navire de secours Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva est toujours bloqué face aux côtes de Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, empêche que soient débarqués les 134 migrants à son bord. L'affaire prend évidemment une tournure politique dans le contexte actuel en Italie. Et à bord, la situation humanitaire des personnes bloquées est de plus en plus précaire. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Le calvaire des migrants secourus par le navire espagnol n'est pas fini. Les 134 personnes ont passé leur 16e nuit à bord, entassées sur le pont du bateau. Pour l'ONG Proactiva Open Arms, la situation est devenue insoutenable. Une bombe prête à exploser, selon le capitaine. D'après les médecins montés à bord, des cas de gale ont été répertoriés, mais ce sont surtout les dommages psychologiques qui inquiètent pour ces migrants, qui voient la côte à 200 mètres seulement de leur bateau. Outre la situation humanitaire préoccupante de ces personnes, le bras de fer est total en Italie, entre un Matteo Salvini inflexible et les autorités judiciaires. Le parquet d'Agrigente en Sicile a ouvert une enquête pour séquestration de personnes. Le ministre de l'Intérieur, qui a signé un décret interdisant le débarquement des migrants, tient lui ferme sur sa ligne. Pas question d'ouvrir les ports du pays aux ONG de sauvetage. Hier soir, c'est même le commandant des gardes-côtes italiens qui a envoyé une note au ministre de l'Intérieur expliquant que rien n'empêchait le débarquement des migrants. Les autorités européennes demandent elles aussi que les personnes à bord puissent descendre à Lampedusa, demande toujours refusée par Matteo Salvini, qui ne cesse de répéter cette phrase comme un mantra. Je ne céderai pas.
Olivier Bonnel, et outre l'Open Arms, un autre navire de secours humanitaire est en attente entre Malte et l'Italie, l'Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée, avec à son bord 356 migrants. Une marée humaine de femmes hier dans les rues de Mexico pour protester contre le viol présumé d'adolescentes par des policiers. Une manifestation devenue violente lorsque certaines protestataires ont mis le feu à un bureau de police. Début août, une jeune femme de 17 ans a dit avoir été violée par 4 policiers dans un quartier nord de la capitale mexicaine. Des manifestations également au Pérou. Des travailleurs du secteur pétrolier employés par une compagnie chinoise, ils exigent une hausse des salaires et demande que l'entreprise emploie plus de travailleurs péruviens. C'est la dernière arme du pouvoir au Venezuela, jouée avec la possible convocation d'élections anticipées. Le chef de l'Assemblée nationale constituante, proche de Nicolas Maduro, a désigné cette semaine une commission chargée d'étudier la mise en place d'élections législatives pour début 2020. Le but, renouveler le Parlement, la seule institution actuellement contrôlée par l'opposition. Après une nouvelle journée de violence dans la région, le Cachemire était hier soir au menu d'un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis que l'Inde a abrogé l'autonomie du Cachemire le 5 août dernier, la tension monte avec le Pakistan. Les deux puissances nucléaires se disputent la souveraineté de cette région. Islamabad plaide pour une médiation internationale, ce que Delhi refuse. Et le débat, hier à l'ONU, a tourné à l'avantage des Indiens. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
C'est une victoire à la Pyrrhus qu'a remporté le Pakistan à l'ONU. Pour la première fois depuis 1971, Islamabad est parvenu à porter la question du Cachemire devant le Conseil de sécurité dans l'espoir d'obtenir une médiation internationale. Mais vendredi à New York, les membres du Conseil ne sont pas parvenus à s'accorder sur un communiqué à l'issue d'une séance à huis clos. Le Pakistan et l'Inde étaient exclus des débats. Islamabad n'a pas pu plaider sa cause et Delhi a beaucoup d'alliés à l'ONU. Pour la France et les États-Unis, l'Inde est un partenaire stratégique sur qui il s'appuie pour limiter l'influence de la Chine en Asie du Sud. Quant à la Russie, Delhi est un important client de son industrie d'armement et dans le nucléaire civil. C'est grâce à la Chine, alliée du Pakistan, que le Cachemire a été porté à l'agenda du Conseil de sécurité. Mais Pékin, préoccupé par la crise à Hong Kong, n'a pas condamné l'abrogation de l'autonomie du Cachemire afin de ménager ses relations avec l'Inde. New Delhi, Emmanuel Derville pour Vatican News.
Le tir effectué vendredi par la Corée du Nord était l'essai d'une nouvelle arme et il a été supervisé par Kim Jong-un lui-même, annonce ce matin de l'agence de presse officielle nord-coréenne. Depuis fin juillet, Pyongyang a effectué 6 essais nucléaires, une manière de montrer sa colère devant les manœuvres militaires conjointes de la Corée du Sud et des États-Unis. Les reliques d'une sainte française pérégrinent en Italie. Depuis le printemps dernier jusqu'au 22 août prochain, les reliques de sainte Bernadette Soubirous font le tour de la péninsule italienne avant de partir pour l'Espagne, une initiative née du sanctuaire de Lourdes à laquelle ont répondu 34 diocèses italiens. Le père Nicolas Ventriglia, coordinateur des pèlerinages italiens à Lourdes, nous explique les modalités de ce pèlerinage.
C'est une idée qui s'est sortie très très simplement. On avait un conseil du sanctuaire avec le recteur et on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour dire au monde entier que cet lieu c'est un lieu de grâce, c'est un lieu qu'on ne peut pas le garder pour nous. La Vierge elle a engagé Bernadette de dire aux prêtres de venir ici en procession. Et alors on a pensé ça, peut-être qu'on peut envoyer les reliques de Bernadette pour l'Italie. J'ai écrit une lettre à tous les évêques d'Italie et on a répondu. Cette année, 34 diocèses. On a laissé libre chaque évêque d'organiser le programme pour la période que les reliques restent. Le point fondamental, on n'a pas envoyé les reliques de Bernadette pour augmenter la dévotion à Bernadette. Elle veut que les prêtres avec la communauté chrétienne viennent ici parce qu'elle a quelque chose à dire aux prêtres et aux fidèles. Et la relique que vous voyez cette semaine, c'était une costole de Bernadette qui était prise la deuxième ou la troisième fois qu'était ouvert son tombeau pour la béatification ou la canonisation.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Et on se quitte avec une bonne nouvelle. La géante Kinshasa, capitale de la RDC, aura bientôt sa basilique. Monseigneur Fridolin Ambongo a posé jeudi la première pierre. Je demande à tous que nous puissions nous tenir la main pour que ce projet réussisse, a déclaré l'archevêque. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.